Pour nous, on va tourner dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29. On déroge temporairement un peu de notre série dans Jérémie. Normalement, on est dans Jérémie, mais cette semaine, et peut-être pour les prochaines semaines ou deux, on va voir d'autres sujets généraux. Et ce matin, on va regarder le ministère de la proclamation. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être centré sur Christ. On proclame Christ. Et qu'est-ce que ça implique de proclamer Christ? On va se mettre dans Colossiens, on va se mettre dans le contexte et on va commencer à lire à partir du verset 21. Verset 21, Colossiens chapitre 1, verset 21, donc, Colossiens 1, 21, c'est à la page 897. Et si vous n'avez pas votre propre Bible ce matin, il y a des Bibles qu'on peut prêter. Juste levez la main si vous avez une Bible, si vous n'avez pas la vôtre ce matin. Donc, page 897, Colossiens chapitre 1, on va la lire à partir du verset 21. Ce matin, nous allons regarder 28 et 29. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé, inébranlable, dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à tous les saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, donc Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés pour ceux d'entre nous qui avons cru en toi, Seigneur Dieu, selon tes termes à toi, Seigneur Dieu, et qui démontrons la réalité de notre foi en demeurant en toi, Seigneur. Comme tu dis, si on ne demeure pas dans ces termes, Seigneur Dieu, on aura cru en vain. Et Seigneur Dieu, merci pour Jésus-Christ qui nous a réconciliés par son sacrifice unique à la croix, qui a ressuscité, a vaincu la mort. Seigneur Dieu, c'est lui donc que nous annonçons, et merci pour ce passage qui nous décrit ici, Seigneur, le ministère de la proclamation. Aide-moi de bien proclamer droitement ta parole, que chacun puisse vraiment avoir reçu l'amour de la vérité pour avoir cru, pour vérifier, Seigneur Dieu, l'exactitude de ces choses par ta parole, qui ont le souci de la vérité, Seigneur Dieu, pour vérifier. Seigneur, on te prie que chacun puisse vraiment vérifier que ce que je dis est bien conforme à ta parole, c'est ta parole la vérité, Seigneur, en tout cas, au nom de Jésus. Amen. Donc, Jésus, l'espérance de la gloire, Christ en vous, ça c'était pour les païens, parce qu'ils n'avaient pas besoin de devenir juifs, un païen qui croyait directement, comme Pierre a dit dans Actes 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom reçoit le pardon de ses péchés. Quand on croit en Jésus-Christ, Christ habite en nous par son Esprit Saint. Christ, physiquement, est à la droite du Père. Il revient bientôt. Depuis qu'il s'est fait homme, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il est partout, mais en même temps, il est localisé. Ça le dépasse. Ça fait péter les circuits. Mais c'est correct, parce que Dieu est infini et nous, on est les finis, on ne peut pas comprendre les finis. Mais Dieu n'est pas limité par le fait que Dieu, que Jésus est à la fois Dieu, de la même nature que le Père, et on sait que les témoins de Jéhovah, entre autres, ne sont pas les premiers, ne sont pas les derniers à enseigner l'hérésie de dire que Jésus est un ange et qu'il s'est fait humain, que tous les anges de Dieu l'adorent, Dieu a dit. Non, Jésus est de la même nature que le Père, comme Jean 5, 26 le dit. Comme le Père a la même nature, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus a la vie en lui-même. Il n'a pas été créé, il est existant éternellement par lui-même. Et ça, ça nous dépasse encore là. Comment Dieu le Père a pu donner au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ça fait éclater les circuits. Mais Christ, justement, alors, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que proclamait Paul, et c'est ce que nous sommes appelés encore à proclamer aujourd'hui. Et nous voyons donc, premièrement, le ministère de la proclamation implique un message. Qu'est-ce qu'on proclame? Deuxièmement, le ministère de la proclamation implique un but. Alors, pourquoi est-ce qu'on proclame un message? Dans quel but est-ce qu'on le fait? Et troisièmement, le ministère de la proclamation implique un effort. Il faut y mettre du sien, mais il faut que cet effort-là soit soutenu, soit ressourcé par, de la part de Dieu. Donc, tout un passage incroyable. Premièrement, donc, le ministère de la proclamation implique un message. Et quel est ce message? Eh bien, c'est simple, c'est une personne. Jésus-Christ, c'est lui que nous annonçons. Ce n'est pas quoi, c'est plutôt qui. Ce n'est pas un système, c'est une personne. Et là, on va voir, il y a quelques sous-thèmes à travers chacun de nos points. Ici, le sous-thème, c'est que Christ est au cœur du message de la ministère de la proclamation. Nous savons que quand Jésus a marché avec les disciples d'Emmaüs, et que ceux-ci ne l'ont pas reconnu, mais ça dit qu'il a pris tout l'Ancien Testament et il leur a parlé de lui-même. Tout pointe à Jésus-Christ. Toutes les imageries qu'on se fait, toutes les histoires, tous les symboles pointent d'une façon ultime à Jésus-Christ. C'est lui que nous annonçons. Donc, premièrement, c'est une personne, mais deuxièmement aussi, ça fait autorité. Il dit « nous proclamons Christ ». Il ne dit pas « nous suggérons Christ ». Il ne dit pas « nous débattons nos idées ». Nous ne faisons pas un dialogue de partage, d'opinion. Beaucoup d'évangéliques aujourd'hui, c'est à ce niveau-là que moi j'ai mon opinion sur la vérité, j'ai mon opinion sur la foi. D'autres croient en Dieu d'autre manière, bien nous dialoguons. Non, proclamons, Paul dit, nous proclamons. Ce n'est pas notre autorité, c'est l'autorité de la personne. Nous le proclamons parce qu'il est autoritaire. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée. Toute autorité, c'est la seigneurie totale de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est très tangible. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis? On peut l'appeler Seigneur, Seigneur, mais tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas dans le royaume des cieux, comme il avertit dans Matthieu chapitre 7. Et donc la seigneurie, ce n'est pas simplement des belles paroles. Ça doit être vraiment une autorité reconnue et à laquelle on se soumet. Ben, Paul le proclamait comme tel. On ne peut pas croire en Christ personnellement sans qu'on devienne son témoin parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'est pas le chemin selon mon idée. Jésus est le chemin. Et si moi, je l'ai cru, eh bien, je veux que tout le monde le croit. Et l'apôtre Paul, justement, le dit, nous proclamons, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme. Pourquoi? Tout le monde a besoin de venir à Jésus-Christ. Tout le monde. C'est universel. Jésus-Christ est le Seigneur de l'humanité entière. Il est le Seigneur de l'univers entier. Jésus-Christ, donc, c'est un message qui fait autorité. Ça exige une proclamation. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est aussi un message complet. Parce que nous voyons qu'il dit non seulement à tout homme, l'audience est pour être tout le monde. Ce qui est merveilleux, que je viens en Guyane, on est à Kamopi, j'ai déjà été en Inde, vous savez, j'ai passé à peu près 6 ans quand j'étais petit en Afrique, en France, mais c'est pas grave. Que ce soit l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, avec le peu de personnes qu'il y a, c'est quand même tout le monde, toutes les cultures. On ne vient pas proclamer une culture, on vient proclamer Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est certain que ça coupe droit au cœur, parce que non seulement il est complet dans ses éléments par rapport à l'audience, mais il est aussi complet dans ses éléments autant négatifs que positifs. Avertissant tout homme, littéralement, exhortant tout homme, il y a un aspect de l'avertissement. Jésus-Christ haït autant ce qui est péché dans la culture guyanaise française que américain, que canadien, que bolivien, que sud-africain, etc. On peut faire le tour du monde et toutes les différentes cultures qu'il y a, le péché affecte toutes les cultures de différentes manières parfois. Les Crétois, dans la Bible, ils étaient connus pour être menteurs. Hein, on sait que certaines cultures ont certaines caractéristiques. Le péché infecte toutes les cultures. Et donc, c'est tous les hommes qui ont besoin d'entendre l'autorité du message de Jésus-Christ. Et c'est un message autant complet dans ses éléments négatifs que positifs. Négatif parce que ça nous avertit que la conséquence de ne pas croire en lui, de ne pas se convertir à lui, c'est l'éternité séparée de lui. Quand on est coupé de lui, Dieu est lumière. L'enfer, le lac de feu, va être une place noire. Pas de lumière. C'est le contraire de qui Dieu est. La souffrance éternelle, pourquoi Dieu est bon. Dans sa personne, toute la bonté de Dieu qui se manifeste de tous les cinq sens qu'on a et toutes les choses agréables qu'on peut voir, les choses qu'on peut goûter, les choses qu'on peut toucher. On connaît tout ça, tous ces bons sens-là, on est coupé de tout cela quand on est coupé de Dieu pour l'éternité. Le lac de feu, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la connaissance. Et viennent à la connaissance de Jésus-Christ, que vienne la connaissance de la vérité, viennent à la repentance. Donc, autant dans ces éléments négatifs, ce que ça condamne et les avertissements de ce que ça amène, autant aussi avec ce que ça apporte. Jésus-Christ parlait deux fois plus de l'enfer que du ciel. Parce qu'on a besoin d'être réveillé sur la conséquence de ne pas croire en lui. Hein, souvent, on emphase le ciel, et on parle très peu de l'enfer. Donc, n'oublions pas d'être complet dans notre message, autant en avertissant de la gravité du péché et de ses conséquences éternelles, autant que, quand même, on inclut aussi l'aspect positif. Dieu parle de le ciel, la lumière, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de mensonge, il n'y aura plus de profitage. Il n'y aura plus de travailler, puis un autre se jouit de cela. Il n'y aura plus de mensonges, plus de tromperies, plus de mauvais, la vieille nature là, avec ses moyens détournés. Le ciel pavé d'or, les rues pavées d'or, ah, le luxe. Dieu n'a rien contre la richesse, mais juste la bonne, celle qui dure éternellement. La richesse d'ici-bas, elle ne vaut rien. C'est une folie que d'ici investir. Mais la richesse au ciel n'est pas la richesse en soi qu'on va louer, la richesse au ciel. La richesse accompagne la présence de Dieu. C'est Dieu, bien sûr, au ciel. On va louer. Donc ça, c'est au ciel, ça sera une merveilleuse place. Donc autant les éléments positifs que négatifs, quand il dit « exhortant tout homme » et « instruisant » positif pour montrer non seulement on doit contredire parfois les contredisants, comme il dit dans Tite et dans Timothée, mais aussi on doit instruire, on doit montrer. La Bible fait les deux. Comme il dit dans 2 Timothée 3,16, que justement, parfois, il doit corriger et instruire ensuite. Le message est complet dans ses éléments négatifs et positifs. Mais aussi, les deux éléments proclamés, on doit exposer ce qui est faux. Donc, quand on proclame la vérité, on doit aussi exposer ce qui en est le contraire, ce que beaucoup de gens ne veulent pas vraiment faire, qui se disent croyants en l'Évangile. Ils veulent simplement dire, moi, ce que je crois, si tu crois le contraire, bah, ce sera pas à moi de te contredire là-dessus, mais non, quand on croit dans la vérité, on expose aussi l'erreur. Et on est prêt à exposer l'erreur, comme dit Éphésiens chapitre 5. Quand il parle aussi de l'exclusivité de Christ, on ne peut pas croire dans un inclusivisme de dire « Ah, tout le monde peut croire en Christ à sa manière. » Christ est lui-même autoritaire. Christ a un message bien défini. Il y a un auteur évangélique qui est bien populaire. Il est anglophone, mais ses livres sont souvent traduits en français. Et il est dit « C'est pas après tout, c'est pas la foi, c'est pas une théorie sur la... sur l'expiation qui sauve, c'est la foi en Christ lui-même. » Mais Christ a défini ce qu'est l'expiation. Christ a défini ce qu'est la foi qui sauve. Christ a défini ce qu'est la repentance dans la Bible. Alors on ne peut pas simplement dire, ah, peu importe la manière qu'on croit en Christ, du moment qu'on croit en Christ, grave comment est-ce qu'on définit les choses. Parce que Christ aussi a la définition des termes qu'il utilise dans sa parole. Et donc, on doit faire attention aux faux prophètes, aux faux frères. C'était présent durant le temps des apôtres, déjà, et bien combien plus aujourd'hui. Paul avait dit, attention, il va s'élever du milieu de vous des loups cruels qui enseigneront des choses pernicieuses, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, donc subtiles. Jésus-Christ, quand nous proclamons Christ, ce n'est pas pour suggérer des choses, ce n'est pas pour partager l'opinion, c'est pour parler de Christ et comment il est exclusif, comment il est autant qu'il avertit les gens contre ce qui est faux et là où se mène le péché, autant dans ce qui est positif et ce qu'on veut suivre. Et donc, il faut un équilibre dans tout cela. Et Christ nous aide à, comme il dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes, votre modération. Quand on présente Christ, oui, c'est exclusif. Mais en même temps, on va savoir comment proclamer ou enseigner, comment encourager, comment consoler. On va voir cet équilibre dans toutes les responsabilités de présenter Jésus-Christ. Vous savez, j'ai commencé à le dire que sa portée est complète pour tous les hommes. Non seulement c'est pour les juifs et les païens. Mais c'était aussi pour non seulement l'élite. Paul prêchait au roi autant qu'aux esclaves, autant que les personnes en prison, autant que le plus pauvre des personnes. L'évangile est pour tous, pour toutes les cultures, pour toutes les personnes, peu importe l'origine, autour de cette terre. Il n'y a pas de personne auxquelles on ne devrait pas chercher. On ne devrait pas avoir une vision là. Nous, on cherche à gagner seulement ceux-là. On veut gagner tout homme. Peu importe son statut social. Ne soyons pas comme nous. On est avec le préfet ou avec le président de la République. Oh, on va non, si on a l'occasion, qu'on puisse parler au président ou quelconque autre personne. Honorables dans leur position gouvernementale, ils ont besoin d'entendre l'évangile autant que le mendiant de la rue, celui qui est peut-être esclave de ses drogues et d'alcool et qui peut-être dans un moment de lucidité, on peut lui parler quelques instants. C'est sans toute occasion qu'on peut pour parler à quiconque. Son sujet est exhaustif en toute sagesse. Jésus-Christ lui-même, sa grande commission, ce n'était pas juste l'évangile, ce n'était pas juste la prédication du salut. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, combien à travers le temps, dans l'histoire de l'Église, que je vois des personnes qui disent « Ah, vraiment ce qui compte, l'essentiel, c'est le salut. Alors on va s'en tenir à ça, puis on va travailler avec toutes les églises qui croient au salut. » Alors, on va éviter de parler des choses qui divisent. On n'est pas tous d'accord sur le mode du baptême ou qui on devrait baptiser, si on devrait baptiser les bébés ou si on devrait juste baptiser les croyants. Alors, on ne va pas en parler puisque ce n'est pas l'essentiel. Mais la Grande Commission, et en toute sagesse, on ne peut pas simplement mettre à l'écart des sujets pour dire « Ah, c'est l'essentiel ». Oui, l'essentiel, c'est l'essentiel, et Dieu est très clair là-dessus. Paul a dit « Ce n'est pas pour baptiser que tu m'as envoyé, c'est pour prêcher l'Évangile, certainement ». Ce qui est le salut, on le met comme étant le salut. Mais Jésus-Christ n'a pas dit qu'on le proclame Christ seulement pour le salut. On le proclame en toute sagesse, incluant donc premièrement le baptême, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on voit l'exemple très concret, on voit les commandements. Le baptême, c'est pour les disciples, c'est pour les personnes qui ont cru. Que ça soit assez rapidement fait, ou que ça prenne un peu de temps pour être certain que la personne comprend non seulement le salut, mais ce qu'est le baptême avant de le baptiser. Mais le baptême n'est pas le salut, mais le baptême est une chose que Jésus-Christ commande. Jésus-Christ, la Grande Commission, faites des disciples, allez, faites des disciples de tous les faites de toutes les nations des disciples en les baptisant du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais encore là, le baptême, c'est juste une chose parmi tant d'autres, parce qu'il dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La saine doctrine, c'est un peu comme la protection. C'est un peu l'écorce de l'arbre qui protège la partie vitale de l'arbre, la sève qui monte. Toute la saine doctrine, non, ce n'est pas ce qui sauve. Mais quand on dit non, puisque ce n'est pas ce qui sauve, on va le mettre de côté, ce n'est pas grave. On va s'en tenir à l'essentiel. Non, parce qu'on enlève l'écorce et ensuite l'essentiel commence à être affecté. Et l'arbre même devient malade et le sel perd sa saveur. Et donc, en toute sagesse, la saine doctrine est bien importante. De garder aussi la différence entre ce qui est l'essentiel et ensuite la saine doctrine est importante. Parce que si on fait de la saine doctrine l'essentiel, là on vient de changer l'évangile. Si on dit qu'il faut absolument se faire baptiser pour être sauvé, ben là on vient de changer l'évangile. Le baptême est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est croire en Jésus et être sauvé pour la vie éternelle. Mais on ne dira pas que ce n'est pas important de se faire baptiser. Donc, c'est important de garder aussi la distinction dans toute cette sagesse-là entre ce qui est essentiel et la saine doctrine qui vient la protéger, qui est importante. Deuxièmement, le ministère de la proclamation implique un but. Pourquoi prêcher Christ? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'on s'en va avec ça? Eh bien, Paul, il en avait un. Il avait une vision. Il a dit « Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. » Donc, la finalité de présenter, vous savez, là c'est la Coupe du Monde, et ça s'en va vers le dernier match, avec la présentation de cette coupe-là, ce trophée d'or, qui est, c'est intéressant à regarder un peu ici et là, c'est pas vraiment important. La Bible parle de ce qu'on peut apprendre du sport, de la persévérance, le besoin que l'athlète, il doit courir selon les règles. Donc, on apprend des choses par le sport, que la Bible nous applique. Donc, on peut apprendre des choses par le sport. Hein? Hier, il y a eu un but, mais il a été refusé. Pourquoi? Parce que la personne avait poussé avant, et parce qu'il n'a pas été selon les règles, le but n'a pas compté. Donc, c'est une bonne chose qu'on peut apprendre certaines choses en regardant un peu le sport. C'est pas l'important en soi. Mais l'important, c'est de qu'est-ce qu'on apprend du sport pour une chose ça. Mais le point, c'est que ça s'en va vers une présentation de ce trophée-là mondial. Le monde entier quasiment regarde ça. Enfin, peut-être pas le monde entier, mais les 48 équipes qui ont été commencées, peut-être ils le regardent plus que d'autres. Il y a peut-être des pays qui auraient voulu faire partie, mais qui ne le sont pas. Enfin, beaucoup du monde regarde un peu à cela. Mais la présentation qui compte pour nous, c'est quand on va répondre à Dieu de nos actes. Quand on va apparaître devant Dieu. Là, je ne parle pas du grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est quand tout le monde va apparaître devant Dieu pour être jugé selon leurs œuvres. Et ceux qui ne sont pas écrits dans les deux vies seront jetés dans le lac de feu. Ils vont être jugés pour leurs œuvres et seront jetés dans le lac de feu pour ne pas avoir été écrits dans le livre de vie. Ça, c'est le grand trône blanc, Apocalypse chapitre 20. Versets 11 à 15. Mais là, je parle du tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5. Le tribunal de Christ pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors, c'est comme c'est merveilleux quand quelqu'un se convertit. Dieu a déjà un paquet tout préparé. Ah, regarde, tu t'es converti. Regarde, commence à déballer. Ah, regarde, tu t'es préparé. Ah, je suis préparé pour ça. Tout un beau paquet d'œuvres, de bonnes œuvres, déjà choisies d'avance, déjà mises sur mesure pour nous. Hein. Dieu a une volonté propre qui nous est propre. Et un jour, on va répondre de ce à quoi il nous a préparé pour ce qu'il a préparé pour nous d'accomplir. Il va nous demander des comptes. Et Paul avait en tête cette finalité de devoir présenter. Et qu'est-ce qu'il voulait présenter ? Il voulait présenter des programmes, il voulait présenter des livres à écrire. Oui, ce serait peut-être des outils. Non, mais ces choses-là étaient des outils pour présenter tout homme. Il voulait tout homme, tout humain, homme ou femme, à l'image de Dieu. Ça, c'est ce qui aura une portée éternelle. Et ça, c'est ce que Paul voulait présenter. Regarde Dieu, rien. Mais est-ce que tout homme était là ? Est-ce que tout homme pour Paul sera là quand il présentera sa propre vie ? Non. Mais il voulait, il aurait voulu pouvoir présenter tout homme. Il n'y a pas un homme qui n'aurait pas voulu être là, non seulement sauvé, mais devenu parfait en Jésus-Christ. Ça, c'était le but de Paul. Vous savez, quand on dit « visons », même si tu n'atteins pas, tu auras plus haut que si on vise bas, puis qu'on l'atteint, bon, bravo. Tu as voulu avoir un 11 de moyenne dans l'année scolaire. Oh, tu as réussi, bravo. Quelqu'un qui aurait voulu avoir un 18, il y a eu un 16. On va dire, t'as pas eu tes buts. Tu as eu un 16, tu visais un 18. Oh, non. On va dire, 11. Ah, tu visais le 11, tu as eu le 11. Bravo. Est-ce qu'on va dire ça? On va dire, bah, celui qui a visé haut, il y a eu un 16, qui a quand même mieux fait. Alors Paul, il aurait voulu pouvoir présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et on sait qu'il va en avoir. Mais même si... Tout le monde, le but, nous aide à viser haut. Et ça, quand on se convertit à Dieu, Dieu voudrait qu'on ait part à amener tout homme derrière nous, devenu parfait, devenu mature, devenu accompli. Le but de Dieu, ce n'est pas juste que les gens se convertissent, qu'ils soient sauvés comme au travers du feu. Non, mais qu'ils deviennent matures, qu'ils grandissent. Et donc, ça, c'est le but de Paul. Et Paul, il proclamait Christ en vue d'atteindre ce but. Donc, on sait qu'il prêchait l'évangile et il le dit clairement. C'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour prêcher l'évangile. Paul était clair, prêcher l'évangile. Mais ce n'était pas juste prêcher l'évangile. C'était ensuite amener les gens à la maturité. Il devait parfois exposer le problème, il disait ça c'est un problème, je te corrige. Il devait instruire, regarde, c'est comme si qu'on fait ci, c'est comme ça qu'on fait ça. Il devait instruire dans le but de amener les gens matures. Et pouvoir les présenter le jour qu'il répond de ses affaires à Jésus-Christ. Et donc, pour nous, Dieu veut qu'on se convertisse, si ce n'est pas fait. Et ensuite, qu'on proclame Christ. On n'est peut-être pas appelé à prédicateur. Moi, je suis appelé à prédicateur. Moi, je vais répondre encore plus que vous par rapport à le fait que je suis responsable d'enseigner beaucoup de choses. Mais tout le monde, par la vie, par le fait d'être témoin, par le fait de... On peut venir à côté d'un autre pour le former à être disciple. Tout le monde, tout chrétien devrait avoir ce but de pouvoir présenter à la fin, quand il répond de ses actes devant Dieu, j'aimerais aimer pouvoir avoir le monde entier ici derrière moi pour pouvoir te les présenter. Mais regarde, j'en ai quand même quelques-uns. Et ça, c'est le but qu'on devrait se donner pour Jésus-Christ. Maintenant, le champ d'action, c'est tous les hommes. Pour Paul, il n'y avait pas un « oh non, ce n'est pas lui ». Dieu l'a dirigé parfois, par les nazis, mais on est en Grèce, etc., en Macédoine. Mais le but, c'était, peu importe à qui il était, de chercher à faire de ces gens-là parfaits en Christ. La norme, c'est Christ est au cœur aussi de l'objectif. Christ est le standard auquel Dieu va mesurer tout le monde. Est-ce qu'on est devenu parfait en Christ? La pleine maturité, Jésus-Christ, il l'a démontré. Il était homme, il n'a pas regardé à... Il était Dieu, mais il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une chose à rester, à accrocher, mais il est devenu un serviteur se faisant homme. Et en tant que maintenant le modèle ultime de ce qu'est un homme parfait, un homme humble, un homme obéissant, un homme qui a un but, un homme qui va quelque part, un homme qui a été élevé et qui a été donné beaucoup de responsabilités et qui ne prend pas ses responsabilités pour profiter des gens, mais pour diriger, pour être le berger. le grand berger, le souverain berger. Il est celui auquel on devrait ressembler. Et Paul, il allait mesurer tout le monde avec qui il travaillait. Tu peux encore la mesure de Christ. Et nous aussi, on devrait avoir ce standard-là. C'est Christ qui est notre standard. Devenir plus comme Jésus-Christ. Ne pas penser à qu'est-ce qui nous appartient, mais qu'est-ce qui va faire avancer la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va faire avancer pour les gens de connaître Dieu, de le connaître personnellement et ensuite de le servir. Enfin, on voit ici, le ministère de proclamation implique un effort. Et ils le disent. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Comment est-ce qu'on va accomplir ce travail-là? Simplement en restant assis, à regarder la télévision. Il y a parfois des documentaires peut-être, mais la plupart de ce monde avec sa télévision, c'est des divertissements, c'est des choses qui sont très mauvaises ou moins mauvaises, mais c'est généralement pas très édifiant. Non, c'est pas en simplement vivant une vie de divertissement, c'est en étant actif. Et il dit, c'est à quoi je travaille. Ça prenait un effort. Premièrement, ce travail était ciblé. Il ne faisait pas juste du travail pour faire du travail. Parfois, quand je vais quelque part sur un terrain agricole, etc., où on a besoin de faire un peu de nettoyage, on peut passer 8 heures et ne pas avoir fait grand-chose. Parce qu'on peut avoir éprouvé beaucoup d'énergie, mais pas efficace. On peut essayer d'abattre un arbre avec une petite scie, puis on met beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas efficace. Il vaut mieux, tant qu'à... Si on a besoin d'utiliser la machette, par exemple, qu'on ne la prenne pas pour abattre un arbre, ça serait très long. Qu'on utilise la machette pour les petites brindilles qu'on a besoin d'enlever, au lieu d'utiliser la tronçonneuse avec les petites brindilles, ça serait l'énergie perdue, à soulever ça. Non, utilisons la tronçonneuse pour les gros arbres, la machette pour les petits. Le travail va être bien, c'est bien efficace. C'est à quoi je travaille. Donc, il garde son but et le travail qu'il fait est pris en compte pour ce qu'il veut faire. Lui aussi, ce n'est pas juste du travail pour faire du travail qu'on veut faire. Mais du travail bien dirigé, bien ciblé. Ensuite, il y a cette balance entre c'est à quoi je travaille, l'implication d'être actif, mais pas hautain, de dire tout dépend de moi si c'est pas fait, si moi je ne le fais pas, ça ne sera pas bien fait, si moi je ne le fais pas, ça ne va pas se faire. Non, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Cet effort devait être fourni par la puissance de Christ. La puissance de Christ ne devait pas lui dire « Ah, ben, je vais attendre que Dieu me fasse bouger. Oh, ah, tu as soulevé mon bras. Ah, il a fait bouger mon... Ah, regarde ça. » Non. Dieu nous a créé à son image et il nous a mis des responsabilités. Et donc, nous avons des choix à faire, nous avons des efforts à fournir. Mais on doit être conscient, on est dépendant de lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains chapitre 11, verset 36. Et Paul était convaincu de la balance de cette chose. Dieu est souverain, Dieu est tout puissant. Et moi, je suis responsable. L'humain est responsable. Donc, il dit, c'est à quoi je travaille. Mais ce n'est pas, je travaille, je vais le faire, je vais l'accomplir. Comme Pierre a dit, si vous pensez que vous allez accomplir des choses, puis demain je vais faire ci, puis demain je vais faire ça, si Dieu le veut. Sachant que Dieu est celui qui a besoin de diriger le pas et va faire en compte ce qui arrive, c'est de Dieu. Paul avait cette balance. C'est à quoi je travaille par sa puissance, en combattant avec sa force. On doit humblement être actif, dépendant de lui, mais obéissant. Donc on ne peut pas s'échapper de ce paradoxe. Dieu est souverain. Puis ça nous commande notre obéissance, notre humilité d'obéir et d'être actif. On ne peut pas dire Dieu est souverain, alors attendons qu'il agisse en nous, parce que Ça, c'est pas là où Dieu s'en va avec ce sujet-là. Paul était bien balancé dans cette confiance dans l'efficacité de Christ, comme il dit, qui agit puissamment en moi. Il était convaincu que c'est Dieu qui lui donnait la force nécessaire pour atteindre son objectif qui était centré sur Christ. Le message, c'est Christ. Le standard, c'est Christ. C'est Christ aussi qui pourvoit l'énergie. C'est Dieu qui pourvoit l'énergie. Alors voilà le ministère de proclamation auquel je suis responsable, mais je suis aussi responsable de vous donner cette perspective et ce commandement, cet exemple que Paul nous donne et le besoin de proclamer Christ. C'est de l'annoncer, nous annonçons Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force et agissant puissamment. Qu'en est-il de vous, chers? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ personnellement comme votre sauveur? Vous êtes-vous repenti d'un cœur brisé, admettant la gravité de vos péchés et de la conséquence que vous méritez dans le lac de feu? Est-ce que vous vous êtes tourné à lui pour dire, « Ok Dieu, c'est seulement Jésus qui est mort pour moi et je viens pour demander que tu me sauves » et avez-vous mis votre foi en lui pour être né de lui? Si oui, est-ce que vous êtes plus baptisé? Est-ce que vous avez grandi? Est-ce que vous avez commencé à déballer les bonnes œuvres qu'il veut que vous fassiez? Et est-ce qu'on le proclame? Est-ce qu'on le suggère aux gens ou est-ce qu'on le proclame avec autorité? Humblement, autant exposant les problèmes, autant enseignant, etc. Je ne vais pas me répéter, mais est-ce qu'on est impliqué à proclamer Christ? On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour l'apôtre Paul. On te prie que tu puisses travailler dans chacun des cœurs, Seigneur. S'il y a quiconque ici qui ne te connaît pas encore comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, on sait que toi, tu ne désires pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. On te prie, Seigneur. Et on te prie de fortifier, Seigneur, ceux qui ont cru en toi, Seigneur, qu'on puisse vivre et proclamer Christ, Seigneur Dieu, et avoir la même perspective que Paul, Seigneur Dieu. On te prie. On te prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. On va chanter un dernier cantique.